بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alors mes chers frères, nous continuons ce programme que nous avons commencé il y a quelques semaines, dans lequel nous rappelons quelles seront les conséquences de chaque péché particulier le jour de Qiyamah. Nous savons plus ou moins quels sont ce qu'on appelle les fada'ilul a'mal, quelles sont les vertus qu'il y a pour les bonnes actions qu'on accomplit. Nous savons d'une manière générale quelles sont les conséquences des péchés. Maintenant, de voir précisément quelle est la conséquence de chaque péché qu'on accomplit ou qu'on n'accomplit pas, si on accomplit dans l'objectif de pouvoir les délaisser, et si on ne l'accomplit pas, c'est pour se rendre compte encore plus de leur gravité, d'en rester éloigné et de donner les conseils, les nasihat qu'il faut aux personnes qui malheureusement sont dans ces péchés. Parmi les péchés qu'on avait vus au début, il y avait l'abandon des cinq piliers d'islam. On avait vu de manière détaillée quelles seront les conséquences de l'abandon de la salat, le jeûne des comptes, l'abandon du jeûne, l'abandon de la zakat pour ceux qui peuvent le donner, et l'abandon du hajj pour ceux qui ont les moyens de s'y rendre. On avait vu également, si je ne me trompe pas, juste après ça, quelles sont les conséquences de la consommation du riba. Quels seront les péchés, quel sera le sort de la personne qui, dans ce dunya, avait l'habitude de consommer de l'argent illicite et particulièrement du riba, de l'intérêt. Et la dernière fois, on avait vu quelles seront les conséquences le jour de Qiyamah pour la personne qui, dans ce dunya, buvait, l'ivrogne, celui qui buvait en permanence, celui qui s'adonnait à l'alcool. On avait vu que par analogie, les ulama disent que tout ce qui s'appelle addiction entre dans le hukm du kham, c'est-à-dire même les drogues, qu'elles soient douces ou dures, c'est la même règle que la consommation d'alcool. Alors ce qu'on va voir aujourd'hui, en fait on aurait dû voir ça juste après les cinq piliers, mais comme c'est un point qui est long et qui doit être développé en deux parties, on a préféré ne pas mélanger avec l'intérêt et ne pas mélanger avec la consommation de l'alcool. Normalement ce point doit être étudié, doit être vu immédiatement après l'abandon des cinq piliers. Parce que certainement le plus grand péché qui puisse exister sur la terre, après le shirk, comme le prouvent les versets qu'on va voir, c'est la désobéissance envers les parents. Et de même, l'action la plus aimée, la plus appréciée par Allah subhanahu wa ta'ala, immédiatement après l'unicité d'Allah et le plus grand haqq, le plus grand droit d'Allah azza wa jalla qui est la salat, la plus grande action qui vient immédiatement après, c'est l'obéissance envers les parents. Donc ce sujet doit être abordé en deux parties, l'obéissance envers les parents et quelles seront les récompenses pour celui qui a obéi ses parents dans ce monde, avant de parler de l'au-delà, petite exception, on va parler de ce dunya et dans le akhir. Et dans la deuxième partie, inshallah, une prochaine fois, si Allah nous donne longue vie, dans une seconde partie, voir éventuellement quelles seront les conséquences pour ce jeune ou ce moins jeune qui aura désobéi ses parents, les conséquences dans ce monde et le jour de Qiyamah. Alors ce genre de sujet, bien souvent, il y a les anciens qui disent, oui, ça, expliquez un peu, ben jeune, c'est quoi obéissance aux parents, dans un autre paquet. Mais il faut bien savoir que ce genre de masla ou ce genre de hadith qui concerne l'obéissance, le respect des parents, ce n'est pas un sujet spécifique aux jeunes. Il serait illusoire de croire qu'il n'y a que les jeunes qui sont concernés par l'obéissance envers les parents. C'est un sujet qui concerne n'importe quelle personne qui a des parents vivants ou même des parents qui sont décédés. Parce que ce qu'on appelle d'une manière générale le birr al-walidain, en français on dit l'obéissance envers les parents, mais le terme birr en arabe a une connotation beaucoup plus profonde qu'on ne retrouve pas dans la langue française. Quand on parle d'obéissance, de respect, de s'acquitter de ses devoirs, ça c'est plus juste ce terme, s'acquitter de ses devoirs envers ses parents. Cela concerne le jeune, une personne qui a 12, 13, 14 ans, d'ailleurs on en voit beaucoup, de 13, 14, 15 ans, qui sont peut-être des autres quartiers, qui sont venus, c'est peut-être des petits méchants que les mamans ont obligés d'aller à la masjid, d'aller écouter Moïssa, va parler de l'obéissance envers les parents, avec un espoir de changement, qu'Allah nous accepte tous, Inch'Allah. Cela concerne également celui qui a 20 ans, 25 ans, qui vient de se marier. Cela concerne également celui qui a 30 ans, qui est marié depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, qui a un enfant ou deux. Cela concerne également celui qui a 50 ans, 60 ans, qui est déjà dada, ou qui est déjà nana, mais dont un des parents, par la grâce d'Allah, ça c'est une faveur de la part d'Allah, celui qui à cet âge-là a encore un papa ou une maman qui est vivant, cela lui concerne également. Et enfin, bien que cela puisse surprendre, cela concerne également ce musulman qui a obéi ou qui n'a pas pu obéir à ses parents durant leur vivant et qui à un moment donné se rend compte qu'il a peut-être manqué à une obligation et qui se pose des questions, comment puis-je soit continuer à m'acquitter de mes devoirs envers papa et maman, ou alors comment puis-je, inshallah, essayer de réparer mes erreurs et faire le maximum pour qu'Allah accepte mon birr al-walidain, même si de leur vivant, je n'ai pas pu l'accomplir. Alors, tout d'abord, il faut savoir également que lorsqu'on parle de l'obéissance envers les parents, c'est une condition, on ne va pas utiliser des mots difficiles, il y a des jeunes qui vont passer le bac, qui ne connaissent pas tous les mots, des conditions sine qua non, 4 syllabes quand même, c'est beaucoup, d'accord, à notre époque, ça fait partie des conditions obligatoires, plus faciles, pour accéder au paradis, bien sûr, mais je ne parlais pas de ça, pour obtenir le degré de taqwa. Quand on parle de muttaqi, un homme qui est muttaqi, souvent on dit c'est un bouzrouk, c'est un muttaqi. C'est quoi un muttaqi? Le muttaqi, ce n'est pas, wallahu al-musta'an, le muttaqi, ce n'est pas la personne qui a une apparence qui nous porte à admirer la personne. Le muttaqi, ce n'est pas celui qui, comme moi, peut-être qui est le plus grand hypocrite, hein, qui va mettre des vêtements de couleur très blanche, qui va sentir très bon, le meilleur des parfums, avec une barbe allongée, etc., etc. C'est pas lui le muttaqi. Lui, c'est quelqu'un qui a mis en pratique la sunna, et encore, concernant les vêtements, la sunna concernant la barbe et le fait de se parfumer. Basse, cette personne qu'on voit avec une grande barbe, avec éventuellement le turban, avec le thawb, le kafni ou le bazou, comme on va l'appeler, et qui est bien parfumé, de visu, c'est juste quelqu'un qui a mis en pratique 4 sunnas. Se parfumer, bien s'habiller, être propre et avoir la barbe et porter le turban. Basta. On n'est pas en droit de dire que c'est un muttaqi ou c'est un fasiq ou un a'oudhu billah. Allah seul sait ce qu'il y a dans les cœurs. Le muttaqi, c'est qui? C'est celui qui regarde le Coran, regarde les hadiths, et il met d'un côté, du côté droit, tout ce qu'Allah veut de moi et ce que notre prophète m'a ordonné de faire. Et je fais tout dans la mesure du possible. Et de l'autre côté, tout ce qu'Allah a décrété haram et ce que le prophète alayhi salatu wassalam m'a interdit. Et tout ça, j'essaie d'éviter et d'éliminer point par point de ma vie. Lui, c'est le muttaqi. Le muttaqi, c'est qui? Ce n'est pas uniquement celui qui va faire des longues rakats ou des longues lectures du Coran quand la mosquée sera pleine ou qui sera présente toute une nuit pendant une entre guillemets grande nuit. Le muttaqi, c'est celui qui, devant nous, ou même en notre absence, qu'il soit à La Réunion, qu'il soit en métropole, qu'il soit en Malaisie, en vacances ou ailleurs pour ses études, celui qui a la crainte d'Allah en permanence dans son cœur. Ça, c'est le muttaqi. Jamais je ne fais passer mon propre désir ou le droit de quelqu'un avant l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour être un muttaqi, il ne faut pas se faire d'illusions, même si nous avons les apparences physiques, même si nous sommes le plus grand abid, le plus grand musalli, le plus grand, celui qui fait le plus de prières, qui lit le plus de Coran, le plus grand qari, le plus grand alim, le plus grand mufti, le plus grand ce qu'on veut, si on n'a pas ajouté à cela l'essentiel, c'est-à-dire l'obéissance envers les parents, on n'est rien du tout. On n'a aucune promesse d'accès au paradis. Bien au contraire, on a la promesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam que lorsqu'on meurt, on va directement dans le jahannam. Ça, on verra par la suite. Les mises en garde, une seule mise en garde, là, il y a trop le jahannam, c'est suffisant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit que celui qui désobéit à ses parents n'entre pas au paradis, il n'y va pas par 4 chemins. Il ne dit pas que sauf si, à moins que non. Celui qui désobéit à ses parents n'entre pas au paradis. Sans regarder s'il avait le ilm, s'il avait la hikmah, si c'était un da'i, si c'était quelqu'un qui faisait zikrullah, qui lisait le Coran, peu importe. La yadkhulul jannata 'aaf. Et dans le hadith, 3 catégories de personnes pour lesquelles le paradis est haram. On ne dit pas que cette personne sera éloignée. Le paradis est haram. Et parmi ceux-là, celui qui désobéit à ses parents. Et dans un autre hadith, 3 catégories de personnes qu'Allah Ta'ala ne regardera même pas le jour de Qiyam. Et les Mufassins disent que c'est Nazarul Rahma. Allah ne les regardera pas avec un regard de pitié, d'affection, de Rahma. Parmi eux, parmi ces 3 catégories de personnes, ce pauvre musulman qui a cru bien faire en allongeant les rakats, en donnant beaucoup dans le chemin d'Allah, en ayant l'apparence du musulman, mais dont le papa ou la maman n'était pas satisfait de son comportement. Que les parents aient raison ou non, en finalité, c'est toujours eux qui gagnent. Ça, c'est clair. Qu'ils aient raison, et on verra certains hadiths si on a le temps, une personne demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si mon père ou ma mère, ils font zulm sur moi, le prophète m'a dit, même s'ils font zulm sur vous, le papa et la maman, ils ont en finalité, pour Allah, ils ont toujours raison. Même si on a l'impression que dans l'histoire, peu importe, le respect, c'est quelque chose d'inébranlable envers les parents. Ah, ben. Et cette notion de respect envers les parents, ce n'est pas quelque chose qui est propre à notre religion, de l'islam. Toutes les religions qui sont venues avant nous, nous savons que d'une manière générale, lorsqu'Allah Azza wa Jal envoie un prophète, quel que soit le lieu géographique, quelle que soit la période, quel que soit le grade de son prophète, de ce prophète, qu'il ait avec lui un livre ou quelques suhuf, quelques livrets, ou qu'il n'ait pas reçu de révélation particulière, en général, c'est le même message qui est véhiculé. L'adoration d'Allah, différentes manières d'adorer Allah par la salat, la zakat, sous différentes formes, et avec ce message, il y a absolument, dans tous les cas, dans toutes les sharia, birrul walidain, l'obéissance envers les parents. Non, c'est quelque chose de, subhanallah, d'universel. Ce n'est pas quelque chose de propre à notre communauté, c'est quelque chose qui est, certains ulama disent même que ça fait partie de la fitra, on les rejoint, ça fait partie de l'innéité, de la nature humaine, que d'aimer et de respecter ses parents. Il n'y a pas besoin d'être musulman, il n'y a pas besoin d'être pieux pour savoir que je dois aimer ma mère, je dois aimer mon père et les respecter. Sans religion, il y a des gens qui le font. Regardez, j'étais sur un groupe tout à l'heure, un groupe auquel j'appartiens, je ne savais même pas, Je t'aime maman, c'est un groupe sur Facebook, ça réunit 110 052 personnes. Je ne sais pas si vous y êtes, vous êtes plutôt sur J'aime Ribéry ou J'aime Zidane, je ne sais quoi, mais J'aime maman réunit sur Facebook 110 052 personnes, et si vous avez du temps en paix, comme c'est souvent le cas chez les jeunes, regardez un peu le listing des personnes qui y sont adhérées, ben vous ne trouverez pas 5% de musulmans. C'est-à-dire que le fait d'aimer ses parents, le fait de respecter ses parents, et lisez un peu les commentaires, c'est ajib, hein, ça fait partie de la fitra. Il n'y a pas besoin de religion pour reconnaître que mes parents ont une autorité sur moi. Et moi, je me dois de rester obéissant toute ma vie. Alors comment une personne qui veut progresser, qui veut se rapprocher d'Allah, il va brûler les priorités. Il va s'adonner au maximum dans d'autres domaines de la religion et griller ce qui est le plus important, ce qui lui donne accès directement au paradis ou qui peut le priver, qui peut le donner l'accès directement à l'enfer, qui est l'obéissance ou alors la désobéissance envers les parents. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala parle de Yahya alayhi salam de le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ya Yahya, khudh al-kitab bi quwwah wa atinahu al-hukma sabiyya » et Allah subhanahu wa ta'ala va décrire les qualités de Yahya alayhi salam. Yahya, nous les chrétiens appellent Jean, « wa hananam min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya wa barram bi walidayhi » Parmi les qualités de Yahya alayhi salam, c'était un homme qui respectait « walidayhi » qui respectait, qui donnait les droits à ses parents. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala parle de Isa alayhi salam, qu'on appelle Jésus, donc qu'ils appellent Jésus dans la religion catholique, lorsque Allah azza wa jal parle de Isa alayhi salam, lorsque les gens ont demandé « Oh Mariam, comment as-tu pu avoir un enfant sans que tu sois marié, etc. etc. » Qu'est-ce que Mariam avait dit ? Parlez avec l'enfant directement. Et l'enfant s'est mis à parler dans le berceau. « Qalaini Abdullah, je suis le serviteur d'Allah. » Atani al-kitab, Allah m'a accordé le livre, waj'alani nabiyya, il a fait de moi un prophète, waj'alani mubarakan aynama kuntu, Allah, en ce sens, Allah a fait de moi une source de baraka, et là, une des premières choses que Isa va dire qu'Allah m'a ordonné, on appelle ça du wasiyya, wa awsani bi salati, wa zakati, ma dum tuhayya, wa barram bi wali, bi walidayya, bi walidati, mashallah, wa barram bi walidati, une des premières choses que Isa, que Jésus va dire, dans les premières secondes de sa vie, ce n'est pas le bayan qu'il va faire à 40 ans, dans les premières secondes de sa vie, alors qu'il est encore dans le berceau, c'est un miracle, il va dire que parmi les choses qu'Allah m'a demandé, la prière, l'aumône, c'est-à-dire aider son prochain par les biens, et l'obéissance envers les parents, le papa comme la maman. Nous voyons donc que le respect des parents, c'est avant tout quelque chose d'universel. Et enfin, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au Banu Israël, au fils d'Israël, Allah subhanahu wa ta'ala parle du mithaq, des engagements qu'il a pris avec les Banu Israël. Parmi cela, la ta'abuduna illallah, d'adorer Allah, wa bil walidayni ihsana, et d'agir correctement envers les parents. Donc nous voyons que dans toutes les religions, nous retrouvons l'obéissance envers les parents, et ça fait partie de l'innéité de la nature humaine que de respecter, d'aimer ses parents, sans qu'il n'y ait de limite dans le temps. Ça aussi, il faudra insister là-dessus. Il ne faut pas croire qu'à un moment donné, j'ai fait ce qu'il fallait pour mes parents. À un moment donné, si je suis moi-même papa et maman, je n'ai plus à avoir la wallah. Jusqu'à, soit c'est vous qui mourrez, soit c'est eux qui quittent ce dunya. Mais jusqu'à atteindre un de ces deux limites, on se doit de continuer de donner les droits à nos parents. Et également, lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, il venait d'être prophète, il venait d'avoir la révélation, parmi les premières choses qu'il a enseigné, il y avait un hadith de Abdullah, si je ne me trompe pas, Abdullah ibn Abasa, radiyallahu anhu, il raconte, on ne va pas dire hadith en arabe parce qu'on s'est un peu attardé déjà sur l'introduction, Abdullah ibn Abasa, radiyallahu anhu, il raconte que j'ai été voir le prophète, alayhi salatu wassalam, au tout début, lorsqu'il a été désigné, lorsqu'Allah Ta'ala lui a désigné comme prophète à Makkah, wa huwa hina idhin mustakhfin. Ça prouve que c'était au début de l'islam. Notre prophète vivait encore caché. C'était encore dans la période apparemment sirriya, lorsque la prêche se faisait de manière secrète. Et j'ai demandé, qui es-tu? Le prophète a dit, je suis le prophète d'Allah. Et entre autres, à la fin de la conversation, il dit que, mais quel est ton message? Il dit, bi an ya'bud Allah wa tuksaru al-awthan wa tusalu al-arham bil-birri was-sila. Il dit, ce qu'Allah m'a ordonné, c'est de faire son culte, lui uniquement, le tawhidullah, de casser les idoles, c'est-à-dire d'enlever le shirk du cœur des gens, et de faire attention aux liens de parenté, de lier, de nouer de bonnes relations avec les proches, et particulièrement donc avec les parents. Donc, cette ode que le prophète alayhi salatu wassalam avait eu de la part d'Allah, de propager au tout début de l'islam, c'était avant la salat. C'était avant que les gens apprennent le Coran par cœur. C'était avant le dhikrullah, c'était bien avant le ramadan, bien avant la zakat, et bien sûr, bien avant le hajj, le pèlerinage. Malheureusement, on trouve des gens de nos jours qui vont au hajj tous les ans, ou des gens qui, mashallah, s'acquittent de la zakat correctement. Des gens qui font le ramadan de manière parfaite avec l'i'tikaf, mais lorsqu'on creuse, on n'a pas creusé de leur vie, mais lorsqu'on s'informe, malheureusement, on se rend compte que c'est une personne qui a un papa, qui a une maman, qui les a peut-être abandonnés à l'hospice, ou alors qui les a mis dans un studio, un endroit, il ne va pas les voir. Allah Moustan. Allah Moustan. Moi-même, j'ai une personne de ma famille qui rend visite régulièrement à une dame qui habite au centre-ville d'une grande famille, une famille très connue. C'est une dame qui est paraplégique. Elle est handicapée, elle ne bouge plus, elle ne peut presque plus parler, et Allah Moustan, elle vit seule. Et elle a des membres de sa famille qui sont vivants. On ne peut pas imaginer comment est-ce qu'on... je ne sais pas si elle a encore des enfants, mais comment des enfants peuvent même frôler leur esprit que de laisser leur papa ou leur maman dans un appartement afin qu'ils ne perturbent pas leur vie de couple. Ça, c'est quelqu'un qui est en train de se précipiter la tête première vers le azabullah. Même si c'est quelqu'un qui va faire autant de bonnes actions, autant de hajj, autant de zakat, comme on a dit tout à l'heure, c'est une personne qui n'a pas compris quelle est la priorité. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de l'obéissance envers les parents, cet ordre, d'une manière générale, vient immédiatement après l'ordre d'adorer Allah uniquement. Dans différents versets qu'on a peut-être déjà cités, et dans d'autres versets où Allah interdit le shirk, la première action demandée par Allah subhanahu wa ta'ala immédiatement après le tawhid, c'est obligatoirement wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a. Et il y a beaucoup de versets, on ne va pas tous les citer, où Allah demande d'adorer Allah uniquement, et ensuite d'agir correctement envers les parents. C'est le premier ordre qui vient. Après le plus grand droit d'Allah, qui est le tawhid, vient le plus grand droit des makhlouqas, des créatures, c'est l'obéissance envers les parents. Et l'obéissance envers les parents, c'est l'action la plus aimée par Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il dit, j'ai demandé au prophète d'Allah quelle est l'action la plus aimée par Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète m'a dit que c'est la salat qui va être accomplie à son heure. Ça, c'est le droit d'Allah, la salat. Et ibn Mas'ud dit, thumma ay qala birrul walidain. Ibn Mas'ud dit au prophète d'Allah, après la salat, quelle est l'action la plus importante, la plus aimée par Allah? Le prophète alayhi salatu wasalam a dit immédiatement que c'est l'obéissance envers les parents. Donc, on n'a pas grillé les étapes, aller chercher ailleurs d'autres pratiques qui sont peut-être nafil mustahab pour se rapprocher d'Allah. Si nous n'avons pas compris que la priorité, c'est l'obéissance envers les parents, on peut progresser, on peut avancer de manière apparente, mais on fait du surplace. Et même pas du surplace, on est en train de reculer parce que on a sur notre tête les mises en garde du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Ibn Abbas, c'était un tabi'in qui avait dit que il n'y a pas une chose qui rapproche plus le musulman d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'obéissance envers les parents. Surtout le hadith. C'est une parole d'Ibn Abbas. Et qui est Ibn Abbas? Ibn Abbas, c'est le sahaba qui avait reçu le dua du prophète alayhi salatu wa salam, Allahumma faqqihu fi din wa allimhu ilma ta'wil. Il avait reçu les doigts de la progression, de l'avancée dans la science des deux côtés, du côté de tafaqquh, la science proprement dit du fiqh, les masla, les fatawa, et de l'autre côté faqqihu fi din wa allimhu ilma ta'wil. Le ta'wil, c'est quoi? C'est la compréhension du Coran, le tafsir. Ibn Abbas radiallahu anhuma, c'était celui qui comprenait le mieux le Coran parmi tous les sahaba. Et avec sa science qu'il avait du Coran, et avec la science qu'il possédait dans le fiqh, dans la jurisprudence islamique, Ibn Abbas affirme, c'est pas un hadith, c'est l'affirmation d'Ibn Abbas, je ne vois rien d'autre. La a'lamu amalan, je ne connais rien d'autre, aucune autre action qui rapproche autant un musulman d'Allah subhanahu wa ta'ala min birril walida que le fait d'obéir, de donner ses droits à sa maman. Ça, c'est l'opinion, c'est le ra'y d'Ibn Abbas. Il n'y a rien qui vous rapprochera, qui nous rapprochera plus d'Allah subhanahu wa ta'ala que de faire des efforts dans l'obéissance envers la maman d'une manière générale, bien sûr, et ensuite envers l'obéissance envers le papa. Alors, il y a une histoire, peut-être qu'on va se limiter à ça parce que normalement on s'arrête à 30 minutes. Il y a une histoire que tout le monde connaît, on en est à 21 minutes. Il y a une histoire très connue qu'on ne va pas raconter encore, c'est ces trois personnes qui étaient prises dans une grotte. Vous connaissez cette histoire? Dans une grotte, et puis une pierre, c'est pas une pierre, il y a un éboulement, hein, d'accord, et ces personnes ne pouvaient sortir. Et ils savaient que lorsqu'on demande à Allah l'intercession par le biais d'une action exceptionnelle, Allah Ta'ala exauce le doigt, c'est ce qu'on appelle At-tawassulu bil a'mal salihah. Il fallait que chacun parmi ces trois jeunes qui étaient donc dans cette grotte, ils invoquaient Allah par le biais de l'action la plus merveilleuse, la plus belle des actions qu'ils aient pu accomplir durant toute leur vie. Et si Allah avait accepté cette action, Allah Ta'ala aurait accepté le doigt. Et parmi ces trois jeunes, il y en avait un, on connaît l'histoire, qui avait dit que moi, j'avais mes parents qui étaient âgés, et le soir, je retournais avec du lait. Parce qu'il avait un troupeau de chameaux, si je ne me trompe pas, donc des chamelles qui donnaient du lait. Et donc, la première personne à qui je donnais du lait, c'était mes parents, avant même mon épouse et mes enfants. Une fois, j'étais rentré un peu tard et mes parents dormaient déjà. Une histoire qu'on connaît, mais c'est un rappel qui est, Inch'Allah, bénéfique pour les croyants, pour vous et pour moi en premier. Elle dit, je suis retourné un peu tard et mes parents dormaient déjà. Je n'ai pas voulu déranger mes parents, mais en même temps, j'estimais que donner ce lait à mes enfants qui pourtant avaient faim, c'était un manque de respect, un manque de considération envers mon papa et ma maman. Et qu'est-ce qu'il a fait ce fils? Il est resté auprès de ses parents toute la nuit, avec l'espoir peut-être qu'ils vont se réveiller dans la nuit, et là ils vont leur donner à boire. Mais les parents se sont réveillés le lendemain. Et lorsqu'ils se sont réveillés, cet enfant a donné à ses parents à boire, alors que lui-même était déjà papa. Il avait déjà des enfants, de la hadith dit que les enfants pleuraient, ils attendaient le lait. Mais il a donné son papa et sa maman à boire en premier. C'est pour montrer vraiment comment était son amour, son attachement profond, et son respect total. C'est-à-dire, personne ne passe avant mes parents, même ma femme, même mes enfants. De nos jours, Allah Musta'an, si on dit que, ça c'est un cas de figure qui n'existe pas, hein, Allah nous protège, que s'il y a trois barques, trois bateaux, il y a deux parmi les trois bateaux qui vont couler. Dans un des bateaux, il y a madame, avec lequel on a 3 ans de mariage, avec lequel on est encore très amoureux, ça passera. Dans le deuxième bateau, il y a les enfants, qui sont encore petits, mignons, qu'on aime à fond. Quand ils auront 15 ans, on les détestera, de toute façon. Et dans le troisième bateau, il y a papa et maman, qui ont 95 ans. Ils sont vieux, ils sont inutiles. Ils ne sont plus productifs. C'est ça de nos jours, malheureusement. Quand vous produisez de l'argent, vous êtes quelqu'un de la société. Quand vous êtes à la retraite, vous n'avez plus aucun intérêt pour la société. Et nos anciens, ils ont la chance, ils pourront être utiles à la société pendant au moins 61 ans ou un peu plus. Avec les réformes, ils seront un peu plus utiles, donc un peu plus reconnus, respectés par la société. Vous pouvez prendre le plus grand commissaire de police, le plus grand attaché de presse ou je ne sais pas, secrétaire du maire, on va être bien avec lui tant qu'il a son poste. Mais quand il sera à la retraite, c'est fini, il n'a plus aucun intérêt. Bref, quand une personne est âgée, cette personne n'a plus d'intérêt. C'est pour ça que les gens ils mettent leurs parents dans les hospices. Et dans la troisième barbe, il y a les parents qui ont 90 ans, qui ne nous apportent rien. Au contraire, c'est nous qui devons aller les voir tous les jours, les faire manger, et plus, sallallahu alayhi wa sallam, s'ils sont âgés, ils sont affaiblis. Alors, qui est-ce qu'on sauverait? Beaucoup de gens disaient, si je peux sauver deux sur trois, je sauve ma femme et mes enfants. Sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est une réalité. Et cette réalité, hein, qui va à l'encontre de la fitra, vous savez comment est-ce que cette réalité, elle est détruite? Il y a d'une part l'éloignement que nous avons de la religion. Ça, c'est malheureux. Mais il y a également tout le bourrage, excusez-moi l'expression, le bourrage de crâne que nous vivons de manière passive lorsque, après Namaz Isha, on va s'asseoir sur son fauteuil, allumer Canal Sat ou Parabole ou autre chose, et on va, comme des abrutis, regarder tout ce qui se passe à la télé, des 60 chaînes, zapper, jusqu'à 11h ou minuit. C'est-à-dire, ce qu'on regarde à la télé, particulièrement nos jeunes qui sont influençables. Pensez-vous qu'un jeune à l'âge de 14 ou 15 ans, il est en pleine construction? C'est à ce moment qu'il va accepter les nasihat et qu'il va construire sa personnalité. Alors déjà nous, on travaille jusqu'à 18h, très souvent madame aussi, elle a besoin de travailler jusqu'à 18h, et donc on n'a pas de relation avec nos enfants. Et nos enfants, leurs relations seront axées sur deux catégories de personnes. Les amis, dans la rue c'est pas le meilleur conseiller, Allah musta'an, et la télévision. Et regardez, je ne vous dis pas de regarder, mais constatez beaucoup de séries américaines. Dans combien de séries américaines, vous voyez que l'enfant, il est toujours avec ses parents, il a ses séries. Jamais ça ferait pas de l'audio, comment on appelle ça? Ça ferait pas de l'audience, ça. Le vocabulaire spécifique, c'est pour les jeunes. Ça fait pas de l'audience, ça. Un enfant qui est avec son papa, avec sa maman, un enfant qui porte des sachets de quoi, se met dans l'auto. Personne ne regarde. Dites un enfant, dites quelqu'un qui rappe, qui fait des trucs, qui fait des slams, qui fait des zwaps, je sais pas comment ça s'appelle. Ah, ça fait de l'audience. Mais pensez-vous, une série qui est basée autour d'enfants qui sont reconnaissants envers leurs parents, jamais de la vie. Parlez-nous des jeunes femmes qui sont divorcées, desperate housewives ou je ne sais quoi, qui vont essayer de charmer les hommes du coin. Là, oui, là, les gens vont regarder. Mais des enfants obéissants. Et dans beaucoup de séries, particulièrement les séries américaines, moi, c'est les images qui restent gravées dans mon esprit, on a des affrontements entre l'enfant et le papa. Regardez les côtes ouest, tout ça. Moi, je me souviens, l'enfant, il battait avec son papa, il battait avec coup de poing, coup de pied, tout. Hein. Il a donné le papa un coup de poing, le papa, il est... C'est-à-dire, ça, c'est des choses que le jeune ou le moins jeune, il va regarder. Son cerveau va intégrer et cela va bousiller l'éducation qui a été donnée à la madrasa ou par le biais de la mosquée ou autre chose. Et les gens ils vont regarder ça jusqu'à intégrer le fait qu'il est tout à fait normal qu'un jeune, qu'un ado, il désobéisse à ses parents, qu'il n'accepte pas les décisions de ses parents et qu'il va toujours faire valoir son droit et qu'il ait raison et qu'il va toujours dire dans son discours que mes parents sont relous, qu'ils sont dépassés, qu'ils sont out, qu'ils sont je ne sais quoi. Ça commence par les 8 ans devant qu'elle regarde Bart Simpson, jusqu'à ceux qui vont regarder Anna Montana ou autre chose, et ils vont voir des jeunes qui sont entre eux, toujours à chercher à se faire la cour, le jeune il veut sortir avec une jeune fille, la jeune fille trouvait toujours un jeune garçon, etc. Regardez Anna Montana, j'ai vu une fois pendant les vacances, c'est catastrophique. Je pense qu'un jeune qui regarde Anna Montana, c'est pire qu'un jeune qui regarde un porno. Celui qui regarde quelque chose de vraiment le gros haram, c'est pas un fatwa, hein, je suis pas moufti. Celui qui regarde un gros haram, ne vous rassurez pas les jeunes. Celui qui regarde un gros haram, il fait le péché maintenant. Le jeune qui a l'âge de 8 ans, 9 ans, 10 ans, il regarde Anna Montana, qu'est-ce qu'il va intégrer dans son esprit? Que quand j'aurai 12 ans, dès quand je mets mes premiers pieds, mes petons, hein, on pourrait dire, mais lorsque je mets mes pieds en 6e, il est normal que j'ai déjà une petite copine. J'ai regardé des sondages hier. Alors c'est un article. Il est tout à fait logique qu'en 3e, pardonnez-moi, il est tout à fait normal qu'en 3e, une jeune fille ait déjà eu des relations. Ça, c'est terrible, ça. Ça fait partie des mœurs de la société. Une fille qui arrive en seconde, qui est toujours chaste, qui n'a jamais eu de rapport hors mariage, ben, il n'y a pas de mariage, c'est un chien, c'est une fille qui est enlirée ou elle est coincée ou autre chose. Malheureusement, c'est ce qui est véhiculé, dans les séries télévisées. Ne cherchez pas, oui, qui ça dit ça à nos enfants, qui ça les fréquente, quel petit maman il a dit ça. Non, ce qu'il va regarder à la télé, il va l'intégrer. Il va emmagasiner tout cela et à l'âge propice, il ressortira les comportements qui ont été préconisés par la télé. Ça, c'est la mondialisation de la pensée. C'est quelque chose d'extrêmement grave. C'est une mondialisation dont on assiste de manière passive. Hada. On va faire encore 5 minutes. Alors, donc, cette histoire, elle est magnifique. hein, l'histoire de ce jeune qui a été libéré, hein, qu'Allah a accepté. Et justement, quand il avait dit, oh Allah, si je fais telle action et que tu l'as accepté, c'était sincère, accepte notre doigt. Et Allah a accepté. Ça veut dire que de toute sa vie, c'était la meilleure des actions que ce jeune ait pu accomplir. Et Allah Ta'ala a accepté cette action. Et vous savez, ce qu'il y a d'extrêmement difficile dans l'obéissance, dans le respect des parents, c'est quoi? C'est que plus ça va, plus ça vient dur. J'ai déjà expliqué ça dans d'autres occasions. Quand vous avez 15 ans, vos parents, ils ont 35 ans, ça va, ils sont quand même pauvres d'esprit. Quand vous aurez 20 ans, vous êtes marié, d'accord? Vos parents, ils ont déjà 50 ans, donc ils commencent à être un peu plus difficiles. Ils commencent à devenir un peu maniaques. Lorsque vous avez votre premier enfant, vous avez, déjà quand vous venez de vous marier, vous pensez que vous êtes en droit de gérer votre ménage. Mais si papa ou maman vous fait une remarque sur la gestion, pardon, je postille, il ne faut pas rester trop près, c'est baraka ça. D'accord? Si, qu'est-ce qu'on disait? Oui, si papa ou maman ose faire une remarque dans la gestion du couple, alors là on va se monter compte. Donc il y a un facteur qui va jouer en notre défaveur. Je suis marié, j'ai une femme. C'est comme l'homme de Cro-Magnon qui a eu sa femelle, qui le tient par ses cheveux. Il ne veut pas que personne n'y touche. Il ne veut pas que personne lui dise comment il faut entretenir cette femme, comment il faut parler avec elle. Personne n'est en droit de s'investir dans mon couple. Et malheureusement, on voit des couples qui vont exploser, il ne faut pas dire ce mot, qui cassent parce que les parents, ils sont intervenus. Mais si votre maman vous donne un conseil dans votre relation avec votre épouse, mais est-ce que c'est une catastrophe? Est-ce qu'elle a porté atteinte à votre dignité? Est-ce que ça voulait dire que toi, tu es encore petit et bête, tu ne sais pas comment parler avec une femme? Là, Wallah, les parents, lorsqu'ils disent quelque chose à leur enfant, c'est toujours et toujours pour leur bien. Et lorsque maintenant, quel âge je vais avoir? 30, 35 ans, papa, il a 60 ans, 65 ans, papa, il commence à devenir maniaque, maman commence à avoir des manies, il commence à répéter les mêmes choses. Hein, quand ils vous donnent un ordre, ils disent plus une fois, ils disent quatre fois, cinq fois ou six fois. Et pour eux, ils l'ont dit une seule fois. Ils ont des pertes de mémoire. C'est-à-dire, plus ils vieillissent, plus ils deviennent difficiles. Et plus moi je grandis, parce qu'on n'appelle pas ça vieillir encore, plus moi je grandis, je mûris, plus j'ai des responsabilités. J'ai envie de protéger mon territoire. Je ne veux pas que personne n'y mette son nez, même pas papa, ni même maman. Donc, l'obéissance envers les parents, c'est complexe par rapport à ça. Mais c'est en même temps une voie royale vers le paradis pour les raisons qu'on vient de citer, mais très facile aussi. Parce que c'est une action dans laquelle il n'y a pas 50 personnes qui interviennent. Pardon. Il y a deux entités. Il y a moi et il y a mes parents. Il n'y a pas d'autres personnes qui interviennent. Si moi j'agis correctement, il suffit que mon papa ou ma maman sourie pour que j'ai les portes du paradis qui sont ouvertes. Il n'y a pas besoin de grand chose. Et dans cette action, il n'y a pas de ria. Il n'y a pas de risque d'ostentation. Parce que c'est une relation directe entre moi et mon père, entre moi et ma mère. Si elle est ou il est satisfait ou satisfaite de moi, impeccable, Allah Azza wa Jal est immédiatement satisfait de moi et une voie royale est ouverte vers l'accès au paradis et le paradis. Donc, et alhamdoulilah, une voie dangereuse et fermée qui est la voie qui donne accès au Jahannam. Alors une fois, on va terminer avec ça. Le prophète, alayhi salat wa salam, hein, il avait reçu la visite d'une personne qui voulait, écoutez bien, qui voulait combattre dans le sentier d'Allah, à l'époque où le prophète, alayhi salat wa salam, le faisait, bien sûr. Il voulait combattre dans le sentier d'Allah auprès du prophète, alayhi salat wa salam. Il voulait se joindre au prophète, sallallahu alayhi wa salam. Et hadith de Anas ibn Malik. Alors, le prophète, alayhi salat wa salam, demande à cette personne, « Hal baqiya min walidayka ahad » Est-ce qu'il reste quelqu'un vivant hein, parmi tes parents? Elle dit, oui, ma mère est toujours vivante. Le prophète va dire, « Qabilillah fi birriha, fa'idha fa'alta thalika fa'anta hajjun wa mu'tamirun wa mujahid. » Le prophète va dire que va auprès de ta maman et recherche l'agrément d'Allah par le respect de ta maman. Si tu le fais, ben, considère que tu as fait le hajj, tu as fait le umrah et que tu as combattu dans le chemin d'Allah. C'est-à-dire que tu as toutes ces récompenses. À partir du moment où tu es auprès de ta maman, tu respectes ta maman est satisfaite. Et bien souvent, je le répète encore une fois, on va chercher la solution très loin. On va se compliquer la vie, trouver qu'est-ce que je dois faire pour devenir plus autre chose. Mais la solution, elle est à deux pas. C'est quand je quitte la mosquée, quand je vais chez moi. Ça, c'est quelque chose que je dis à mes élèves parfois quand on parle de l'obéissance envers les parents, pour les faire réagir un petit peu. Je dis maintenant que vous avez écouté tout ça, qui parmi vous fait l'intention que dès quand j'arrive chez moi, je vais voir maman, je l'embrasse sur le front. Je vais voir mon papa, embrasser papa, beaucoup ils n'aiment pas trop ça. J'embrasse mon papa et je prends la main de maman et ensuite la main de papa, je dis « Oh papa » ou bien « Oh maman, pour tout ce que j'ai pu faire, je te demande de me pardonner, c'est maf, et à partir de maintenant, je vais être le meilleur enfant, tout ce que tu as besoin, tu me demandes. Et là, les doigts, ils se lèvent, mais timidement, mais c'est ça la concrétisation de ces paroles. C'est quand je quitte la mosquée, j'arrive chez moi, je décide de changer ma vie. Je décide de changer mes relations avec mes parents, quel que soit leur âge, qu'ils aient raison, qu'ils soient fatigués, que leur tête, même s'ils disent la tête n'est pas bon, peu importe leur caractère, je change mon comportement et je deviens quelqu'un d'exemplaire. Parce que si je ne le fais pas, je cours à ma perdition. Je peux être hafid al-Qur'an, je peux être alim, je peux être moulana, je peux être ce que je veux, si je n'ai pas l'obéissance, je n'ai pas l'agrément, le contentement, pas uniquement par les paroles, mais dans le cœur, parce que ce n'est pas tout que le papa ou la maman disent de bonnes paroles, il faut que le cœur soit satisfait de nous également. Ça, c'est extrêmement important. Si je ne le fais pas, alors c'est la pire des choses qui peuvent m'arriver. Et on va terminer avec ce dernier point, on aura fait une page avec 7 points. En plus d'avoir énormément de récompenses, en plus d'avoir l'accès garanti, Inch'Allah, au paradis, le rapprochement avec Allah subhanahu wa ta'ala, vous savez que le fait d'obéir à ses parents, c'est quelque chose qui va grignoter vos péchés. Sans lever vos mains et demander tawba à Allah subhanahu wa ta'ala, le simple fait d'obéir aux parents, que les parents soient satisfaits de nous, les péchés qu'on a pu accomplir, Inch'Allah, seront consumés, seront enlevés de notre livre de compte par la compensation qui sera faite par l'obéissance envers les parents. On terminera en citant le hadith approprié, hadith de Amr, non, hadith de Ibn Umar radiallahu anhuma. أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما فهل لي توبة أوفد الله j'ai fait un péché grave. Il n'a pas parlé d'un petit péché. J'ai fait un péché عظيما, et عظيما en arabe c'est plus que kabir, c'est un péché extrêmement grave. Quel est mon tawba? Comment puis-je demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala? Qala, hal laka min ummi, est-ce que ta maman est vivante? Qala la, dis non, ma maman n'est pas vivante. Elle est décédée. Qala, hal laka min khala, est-ce que ta tante, donc Allah, est-ce que ta tante est vivante? Qala na'am, qala fabirraha. Donc, le prophète dit, si ta tante est encore vivante, va auprès d'elle et sois respectueux et donne les droits à la tante. Et là, les mohalis disent que cette personne, sa maman n'était plus vivante. Donc, le respect ensuite va pour la tante. Tout comme si le papa est mort, c'est pour les tontons. Maintenant, pensez une seconde si ce respect, cette obéissance, ce dévouement va directement envers les parents. Inch'Allah, nous devons avoir espoir que par cette sincérité, ce désir d'être toujours proche et d'obéir à nos parents, Allah Azza wa Jal pardonnera les erreurs qu'on a pu cumuler. Et l'objectif, c'est quoi? C'est que je me présente auprès du tribunal d'Allah avec un maximum de bonnes actions acceptées par Allah et sans le moindre péché. Et si on veut voir nos péchés effacés, parmi ces moyens, il y a l'obéissance envers les parents. Donc ce qu'on verra, Inch'Allah, la prochaine fois, c'est quoi? C'est obéissance envers les parents égale contentement d'Allah. Non, c'est-à-dire, excusez-moi, le contentement des parents égale contentement d'Allah et le mécontentement des parents, quel que soit le cas de figure, quel que soit mon degré de piété, égale le mécontentement des parents, comme on l'a dit tout à l'heure, celui qui désobéit à ses parents n'entre pas au paradis. Et cela sans distinguer quelles étaient les actions de cette personne. On va voir, c'est le point le plus important qu'on aurait aimé peut-être citer là, mais le temps nous fait défaut. Quels sont les droits des parents? On va voir 9 choses qu'un enfant se doit de faire absolument, obligatoirement envers ses parents. La 10e chose, on va voir comment il est important pour un enfant de donner de ses biens à ses parents. Al-infaq, si on a les moyens d'aider nos parents financièrement. Le tout, ce n'est pas d'être gentil, d'être poli. C'est également si on a les moyens et si nos parents ne sont pas très aisés, de les aider, même sur le plan financier. On verra par la suite également, Inch'Allah, quelle est la place spécifique de la maman, donc par rapport au papa. Et on va voir deux histoires magnifiques de la vie de Abu Huraira. Vous savez, Abu Huraira, c'est celui qui a rapporté le plus de hadiths. Combien de hadiths? Subhanallah. Combien de sélections Govoun aura à la Coupe du Monde? Tout le monde est capable de dire. Combien de sélections Thierry Henry aura? Tout le monde est capable de dire combien de buts il a marqué. Combien de hadiths Abu Huraira a rapporté? Plus de 5000 hadiths. C'est le plus grand rawi de hadith. Mais c'est également un homme qui aimait tellement, tellement sa maman. Lorsque il s'est converti à l'islam, il a invité sa maman vers l'islam. Sa maman n'a pas accepté. Il a insisté jusqu'à ce que sa maman a commencé à dire des propos pas très corrects sur la personne du prophète, alayhi salatu wassalam. Abu Huraira est parti voir le prophète en pleurant. Il dit au prophète, en pleurant,
Il pleure parce que il voit que sa maman reste dans le côté au prophète d'Allah. J'ai invité ma maman vers Allah et son prophète et elle a dit telle chose. Au prophète d'Allah, demande à Allah de guider ma maman. Et Allah Azza wa Jal a mis la hidayah dans le cœur de sa maman. Il retourne chez sa maman et sa maman est en train de faire la taharat. Elle a accepté la shahada. Et Abu Huraira est l'homme le plus heureux. Il a dit au prophète d'Allah, voilà ce qui s'est passé, Allah accepte notre invocation. Au prophète d'Allah, demande à Allah que moi, Abu Huraira, ainsi que ma maman, nous serons toujours aimés par n'importe quel musulman de cette ummah jusqu'à la fin des temps. Et ne pense pas qu'à lui, dans tous ses doigts, il inclut sa maman. C'était un homme exceptionnel, d'après vous. Comment est-ce qu'il a eu ce ilm pour pouvoir propager plus de 5000 hadiths? C'était une personne qui, avant tout, avait sa maman dans son cœur. On va voir l'histoire également merveilleuse d'une personne, je ne sais pas si c'est Sahaba, il faut rechercher c'est qui cette personne. Vous connaissez l'histoire d'Hazrat Bilal, le Prophète avait entendu ses pas de le paradis. Il y a une autre personne, je n'ai pas le nom là, j'ai déjà fermé le livre. Le Prophète avait entendu la lecture de le qira'a de cette personne de le paradis. Et c'était quelqu'un qui était connu pour être une personne qui était un des plus fidèles, un des enfants les plus obéissants envers ses parents. On va voir qu'il ne faut jamais attrister ses parents. Même le cœur, casser le cœur de la maman ou du papa, même s'il ne le dit pas, ça c'est quelque chose d'atroce et d'abominable. On va voir également qu'il n'y a pas de limite pour le respect des parents. Et on va voir également maintenant, après le décès, qu'est-ce qu'un enfant doit faire pour respecter ses parents. Et ensuite, si Allah nous donne l'envie dans une autre partie, de voir quelles sont les conséquences pour le fait de désobéir ses parents. Qu'Allah nous accepte, mes chers frères. Moi en premier, on en a tous besoin. Qu'Allah donne la possibilité de comprendre quelle est l'importance et la place des parents dans l'islam. Ceux qui ont les parents, les deux qui sont encore vivants, qu'ils soient ensemble, qu'ils soient divorcés, quel que soit le cas de figure, que chacun parmi nous fasse le niyat à partir de maintenant de ne plus jamais manquer de respect, de ne plus jamais dire, comme on dit en créole, répondre de manquer de respect envers les parents, de ne plus jamais s'entêter à avoir raison, quel que soit le cas de figure, d'être l'enfant le plus adorable. Un enfant avec lequel les parents n'auront aucune reproche à faire, Inch'Allah. Et ceux qui ont un des deux parents vivants, qui s'accrochent à fond avec ce papa ou cette maman pour qu'ils le permettent d'accéder au paradis. Et ceux qui ont des parents décédés, qu'on se mette à faire doigt régulièrement pour eux. Et on verra par la suite comment on peut encore aider nos parents après leur décès. Wa ma tawfiqi illa billah. Subhana rabbika. Rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakum khair.